French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
On ne vit pas dans le downtown, mais on a les avantages de la grande ville tout en vivant un petit peu dans un endroit calme. De mon appartement, je suis à 5 minutes à pied de la mer et à 10 minutes en voiture de la montagne.
Waouh !
Autour de la ville de Vancouver, il y a 3 stations de ski qui sont accessibles à moins de 30 minutes en voiture.
Ah, oh, c'est génial.
Et donc, parce que donc, dans la ville en soi-même, il ne fait pas froid, mais il y a de la neige, enfin, ce n'est pas comme en France, tu vois, il y a de la neige à 800 mètres d'altitude, même peut-être moins, à 1500, 2000 mètres, c'est des glaciers, quoi.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à tous, je suis Charlotte, une des membres de la team Phelps, et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast, épisode 24, saison 2. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de Lily. Lily vit à Vancouver, au Canada, mais avant de partir pour le froid canadien, Lily a posé ses valises au Maroc, au Sahara occidental, décision qu'elle a prise sur un coup de tête 15 jours avant de partir. Elle en est maintenant à sa 4e année d'expatriation, et Lily nous raconte dans cet épisode sa nouvelle vie au Canada, comment vivre loin de sa famille et ses amis, son métier d'enseignante de français qui la passionne. Pendant cette interview, Lily m'a fortement donné envie de découvrir Vancouver et toutes les pépites qu'elle recèle. J'espère que cet épisode vous donnera autant envie qu'à moi de partir, et je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Lily.
Bonjour Lily, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre appel à témoins, d'avoir proposé de participer à cet épisode. Alors Lily, est-ce que tu peux nous dire d'où tu nous parles et qui tu es ?
Oui, alors je viens de France, mais ça fait 4 ans que j'habite à l'étranger. J'ai habité pendant un petit peu plus d'un an dans le sud marocain, dans le Sahara occidental, les provinces du sud du Maroc.
D'accord.
Après ça, j'ai eu mon PVT, donc pour partir au Canada, le permis vacances-travail. Donc maintenant, ça fait presque 3 ans que j'habite à Vancouver, en Colombie-Britannique.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à partir tout d'abord dans le sud du Maroc ?
Alors ça a vraiment été un petit peu un coup de hasard, ça n'a pas été questionné plus que ça en fait, parce que c'est vrai que quand j'écoute justement votre podcast, il y a souvent justement par rapport à toute la réflexion de l'expatriation, etc., comment bien partir et tout ça, et moi j'ai vraiment, je suis partie sur un coup de tête. J'étais en master d'enseignement pour devenir professeure des écoles. Et donc, je faisais un master pour enseigner au premier degré.
Master de l'éducation.
Ouais, c'est ça. Et donc là, je me suis rendu compte un peu que j'étais encore jeune. Enfin, à l'époque, j'avais 23 ans. Et donc, je passais mon concours et j'avais vraiment l'impression que j'allais rien faire de ma vie. Et donc, je viens de Bretagne, mais j'étudiais à Paris à ce moment-là. Et donc, je me voyais déjà enfermée à 30 ans à Paris, ne rien pouvoir faire de ma vie. Et ça m'a fait hyper peur.
Pourquoi tu t'es dit ça ?
Je sais pas, ça a été vraiment l'impression que j'ai eue, parce qu'à ce moment-là, j'habitais dans un petit studio, et puis j'étais célibataire, tout ça. Je voyais vraiment ma vie se terminer avec ce concours de professeur des écoles. Même si c'était un métier qui m'intéressait beaucoup, j'avais pas du tout envie de m'installer à Paris. Comme c'est compliqué d'obtenir des mutations avec l'éducation nationale, je voyais pas comment j'allais pouvoir... retourner en Bretagne, proche de mes amis, de ma famille. J'avais aussi très envie de voyager et j'avais voyagé un petit peu à l'époque, mais pas beaucoup, et j'avais envie de plus. Et je voyais pas comment tous ces projets allaient être possibles en passant
pouvait aboutir.
Ouais, en passant le concours. Et donc, j'ai validé mon écrit, j'ai eu mon écrit. Et à ce moment-là, j'ai annoncé à mes parents que je ne me présenterais pas à l'oral.
D'accord. Donc, je vois très bien de quoi tu parles puisque je suis professeure des écoles.
D'accord.
J'ai aussi passé le master et le concours. Et effectivement, pour nos auditeurs qui voudront peut-être en savoir un peu plus, ils pourront contacter par la suite. Mais voilà, pour leur donner des petites pistes, quand on veut passer le concours, on peut choisir l'académie dans laquelle on passe.
Voilà,
mais
c'est
une fois qu'on l'a passé dans cette académie-là, on doit travailler dans cette académie. Et c'est très difficile de revenir dans l'endroit où on est d'origine.
Voilà, c'est ça. En fait, mon idée, donc, quand j'étais en master, c'était de prendre une année comme sabbatique après le concours. Et donc là, j'avais demandé l'autorisation à l'académie, je m'étais vraiment bien renseignée auprès du rectorat de Paris, et il n'y avait aucun moyen de faire ça. Fallait tout de suite commencer.
Rapprochement de conjoint ou
voilà. Et donc, j'ai juste arrêté.
D'accord. Et du coup, tu es partie au Maroc et c'était une proposition pour un travail ou tu t'es dit, je vais partir un an pour découvrir?
Alors, entre mon arrêt et mon départ au Maroc, il y a eu un an. Donc, un petit peu un an de flottement où là, j'ai voyagé. Donc, j'ai voyagé pour moi. Je me suis pas expatriée. Donc, je suis partie en Birmanie. J'ai fait un road trip justement au Canada. Donc, j'ai traversé de Montréal à Vancouver en stop. Et,
wow.
Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, oh, mais j'ai vraiment très envie de vivre au Canada. Donc là, j'ai demandé pour avoir un PVT, permis vacances-travail, en 2016. Mais je ne l'ai pas obtenu. Et donc, à la fin de mon voyage, je ne me voyais pas du tout rentrer en France. Et voilà, ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, repasser le concours. Certes, j'avais voyagé pendant un an, mais ça ne me convenait toujours pas en termes de parcours de vie. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, je pourrais enseigner à l'étranger. Ça compléterait les deux parties de ce que j'ai envie de faire, donc pouvoir travailler avec les enfants, parce que c'est vraiment une passion pour moi, et en même temps continuer à voyager, être à l'étranger. Et donc là, j'ai postulé dans plein d'écoles différentes. Donc sachant qu'à ce moment-là, j'avais 25 ans, un master, mais pas de concours, et surtout très peu d'expérience. J'avais travaillé un an en alternance, en même temps que mon master, dans une école à Paris, mais c'était une alternance, donc c'était pas une année complète.
Oui, c'est les années comme des stages, en fait, qu'on a.
Voilà. Et donc, j'avais pas non plus 10 000 possibilités, sachant la peu d'expérience que j'avais. Donc, je suis simplement partie où j'ai eu une réponse positive. Donc, je suis partie dans le sud du Maroc sans trouver beaucoup d'informations sur cette région, sur Internet, parce que donc, le Maroc est évidemment très, très touristique. Mais cette partie-là du Maroc, pas du tout.
Et pourquoi ?
Parce qu'il y a eu beaucoup de conflits politiques dans les années 70. Ça a été une zone qui était colonisée par l'Espagne, puis qui a été indépendante. Et au moment de leur indépendance, le Maroc l'a annexée. Et donc, ce qui a provoqué pendant des dizaines d'années des conflits politiques. Quand je suis arrivée là-bas en 2016, il y avait toujours la présence de l'ONU sur place pour la paix. Et donc, ça fait quand même une drôle d'ambiance. Et surtout, il y a absolument zéro touriste et peu de gens parlent le français. C'était très, très difficile de trouver des informations d'expat sur Internet. Mais je suis partie quand même.
c'est une région qui est très peu connue du Maroc.
Ouais, ça se développe maintenant parce que je sais pas si tu connais un petit peu le Maroc, mais c'est dans cette région qu'il y a Darla. Donc c'est très connu maintenant pour le kitesurf. Et donc ça se développe.
Ok, mais quand toi t'es arrivée en 2016, il y avait absolument pas d'informations. Comment t'as fait pour arriver là-bas? D'abord, tu as trouvé une école pour enseigner le français? Tu étais
oui.
Donc enseignante de FLE?
Alors, pas de FLE, mais j'étais dans une école française. Donc, j'ai été embauchée pour travailler dans une école française. Parce que quand même, il y avait une école française sur place. Il y avait quand même quelques expats, mais c'est juste que c'était difficile de trouver des infos à ce moment-là sur Internet. Du coup, j'ai été accueillie par les Français de l'étranger qui étaient déjà sur place, qui m'ont aidée à trouver un appartement, qui m'ont un petit peu guidée sur la vie là-bas. Donc, il y a eu des hauts, des bas, mais dans l'ensemble, c'était quand même une expérience vraiment très intéressante et très forte, que ce soit humainement ou éthiquement.
Professionnellement,
exactement, oui.
Ça t'a conforté dans ton choix de continuer à enseigner?
Ah oui, tout à fait, ouais. C'est là que je me suis trouvée, je pense, professionnellement. Donc, de travailler à l'étranger dans une école avec des enfants qui étaient à ce moment-là de ma vie arabophone. Donc, moi, je ne maîtrisais pas ou très peu l'arabe. Et donc, c'était vraiment réussir à communiquer avec mes élèves et enseigner malgré tout un programme français dans une école française avec des projets francophones, ça a été vraiment très intéressant.
Comment tu faisais pour communiquer avec eux si tu parlais pas tellement arabe, qui parlait pas bien français, ça a été difficile ?
Alors moi j'enseignais en CP, donc en première année de primaire après la maternelle, et donc à ce moment-là ils avaient déjà fait leur maternelle, donc ils maîtrisaient le français. Mais j'enseignais pas en maternelle à ce moment-là, et c'est vrai que si j'avais été en maternelle, ça m'aurait sûrement posé des difficultés parce que à l'époque j'avais pas trop d'expérience et de bagage FLE, donc français langue étrangère.
D'accord. Ouais, donc difficile pour toi d'arriver à communiquer au tout début.
Avec des maternelles, oui.
Et alors, tu as trouvé un appartement assez vite, tu as été aidée par les Français de l'étranger dont tu parlais.
Oui.
Comment ça s'est mis en place tout ça ? Tu as eu besoin d'un visa ? Tu as eu besoin de...
Oui, alors il fallait, pour le Maroc, il faut une carte de résident. Donc ça a été très long puisque je l'ai fait la demande en octobre 2016 et je l'ai obtenue en septembre 2017.
Au moment de repartir.
Voilà. Mais voilà, j'ai eu les papiers. Puis trouver un appartement, ça a été un petit peu de la chance parce que c'était pas forcément facile. Parce que comme c'est une ville qui n'est pas touristique, il y a des apparts qui sont soit très petits et pas du tout dans nos standards occidentaux. Et donc qui me plaisaient pas trop, surtout en arrivant en tant que femme seule, expatriée femme seule. Dans un territoire justement où il y a très peu d'expatriés, j'avais quand même envie d'avoir un minimum de confort pour me sentir chez moi. Et oui. Donc j'ai eu un petit peu de mal à trouver un appartement qui me plaisait. Mais finalement, ça a été un petit peu voilà, de la chance parce que je suis passée devant un magasin de meubles un jour et il y avait une annonce sur la porte, mais écrite en arabe. Alors je m'arrête pour regarder, mais bon, je ne comprenais pas ce qu'il y avait écrit. Et le monsieur du magasin arrive et dit « Ah, vous cherchez quelque chose ?» Et j'ai dit « Ah non, non, mais je pensais que c'était… » Donc, il m'a parlé un petit peu en français. Il me dit « Non, je dis « Ah non, non, mais je pensais juste que c'était une annonce pour un appartement. » Il me dit « Ah, mais juste au-dessus, on a des appartements à louer, on en a deux. Il y en a un au premier étage et un au deuxième. » Et donc là, j'ai visité et c'était vraiment des chouettes appartements. Donc, j'ai pris celui du deuxième. Et deux semaines après, il y a des gens qui ont pris celui du premier. Donc, ça m'a fait un petit peu peur parce que c'était quand même, ça résonnait beaucoup, le bruit et tout ça. Et c'est vrai qu'au Maroc, les habitudes, justement, pour se coucher, tout ça, les heures sont un peu différentes. Et finalement, c'est un couple de Belges qui ont pris l'appartement avec leur petite fille. Et donc, c'était des collègues à moi, mais je le savais pas encore à l'époque. Et donc, ça a vraiment, permis
de créer du lien.
Ah ouais, de passer une très chouette année aussi au Maroc, c'est que j'ai eu des formidables voisins et des formidables collègues.
Ah, c'est top. C'est une belle expérience alors.
Ouais, voilà. Et donc je suis restée là-bas avec toutes les expériences et les péripéties que ça a pu m'apporter jusqu'en fin octobre 2017 et après je suis arrivée ici à Vancouver.
Pourquoi tu n'as pas prolongé l'expérience ?
Parce que j'avais toujours ce but d'aller au Canada. C'était vraiment mon but. Et entre-temps, je me suis mis avec mon copain actuel et qui était au Canada. Donc, j'avais aussi envie de le rejoindre.
Bien sûr. D'accord. Mm. Les lois du cœur.
Voilà, c'est ça. Et puis, bah, il était déjà au Canada et j'avais ce projet personnel de base. Donc, ça tombait hyper bien.
Il était au Canada, là où tu souhaitais aller ou pas forcément ? Toi, tu voulais juste aller au Canada ?
Moi, je me demandais. J'étais encore en hésitation entre Montréal et Vancouver, sachant que Montréal, c'était la facilité parce que ça parlait en français. Mais après, si je voulais enseigner, c'était moins facile à Montréal parce qu'ils ont moins de besoins, puisqu'ils ont déjà beaucoup de francophones. Après, à Montréal, je connaissais aussi déjà des gens. À Vancouver, beaucoup moins. Et Florent, mon conjoint, lui, il est moniteur de ski et de snowboard. Donc, lui, ce qu'il lui faut, c'est les montagnes. Et donc, à ce moment-là, lui, il était dans les Rocheuses canadiennes. Donc, c'est pas très loin de Vancouver, mais c'est pas non plus Vancouver. Et le meilleur compromis pour nous deux, pour nous retrouver et vivre notre histoire, c'était Vancouver.
D'accord. Et pour revenir un tout petit peu en arrière au Maroc, quelles sont les plus grosses difficultés que tu as eues de t'expatrier un an dans un pays du nord de l'Afrique? Et puis, qu'est-ce que t'en retires de cette expérience?
Les difficultés, j'ai souffert de la solitude parce que j'étais pas mal toute seule et même, bon, j'avais vraiment des super collègues et des super voisins, on faisait plein d'activités ensemble et tout ça, mais c'était un petit peu ma seule distraction en termes d'amis, en termes de sorties, parce que, donc, comme je disais, c'était entre mes 25 et mes 26 ans, donc c'est encore juste avant, enfin, je sortais tout le temps, je faisais beaucoup la fête avec les copains, en club, etc. Et quand je suis arrivée là-bas, donc c'était une expérience de voyage, une expérience professionnelle, mais c'était pas une expérience de sortie, parce qu'il y avait vraiment rien à faire, donc l'alcool est interdit, c'est un petit peu difficile de se procurer de l'alcool. Il y a pas de bar, enfin, donc la relation homme-femme est différente aussi.
Socialement, c'est plus compliqué.
Socialement, ça a été un petit peu difficile de se faire des amis, donc ça c'était un peu difficile. Par conséquent, ma famille et mes amis en France me manquaient beaucoup. Oui, c'est surtout juste avant l'été, donc le mois de juin 2017, je me rappelle avoir eu vraiment des gros coups de blues. Ça a été vraiment très difficile pour moi. J'avais vraiment hâte de rentrer en Bretagne pour l'été. Et là, je me souviens avoir eu de grosses difficultés quant à l'expatriation.
Tu t'es posé des questions ? Tu t'es dit, peut-être que je ne suis pas faite pour ça ou pas
oui.
du tout ?
Ah oui, oui, tout à fait. Parce que je me rappelle appeler mes parents en pleurant, dire que je voulais rentrer tout de suite. Bon, mes parents, voilà, qui essayaient de relativiser, dire, mais tu ne vas pas rentrer maintenant, il te reste 3 semaines.
Oui, il faut tenir le coup.
Et bon, je l'ai fait, hein, je suis allée jusqu'au bout... Et puis au final, ça rend plus fort, c'est sûr, enfin, au niveau de l'expatriation. Et puis ça rend les relations aussi beaucoup plus privilégiées et beaucoup plus claires. Enfin, par exemple, en termes d'amitié, en termes de famille, justement quand on rentre d'expatriation, quand on garde le contact avec les gens pendant notre expatriation, je trouve que les gens qui restent, parce qu'il y a des gens qui s'effacent petit à petit aussi, mais les gens qui restent, ça reste des relations d'autant plus fortes. Ça m'a vraiment appris ça, cette expérience au Maroc, d'entretenir des relations de qualité avec mes proches.
Et d'ailleurs, tes parents, tu dis qu'ils t'ont soutenu là quand tu te sentais pas au top, que tu avais envie de rentrer. Quand tu leur as annoncé ton premier départ, ton départ pour le Maroc, comment est-ce qu'ils l'ont pris ? Est-ce qu'ils ont été derrière toi ? Est-ce qu'ils t'ont soutenu tout le long de cette expérience ?
Je dirais que oui. Bah, ils étaient un petit peu tristes de me voir partir. Et surtout après, donc Maroc, puis après je leur ai dit que je partais au Canada. Après,
ça leur a fait un deuxième choc, j'imagine.
Après, bah, là, il y a quelques temps, on a eu notre résidence permanente pour le Canada. Enfin, tout ça, petit à petit, ils se rendent compte qu'on ne va peut-être pas rentrer tout de suite. Et forcément, ça les rend un petit peu tristes. Mais je pense qu'ils sont derrière moi. Et... Bon, alors des fois, pour rigoler, il peut y avoir des petites phrases un peu culpabilisatrices, mais vraiment très peu. Non, je pense qu'ils soutiennent vraiment... mon projet, qu'ils étaient fiers de moi, du courage de pouvoir faire ce genre d'expérience.
C'est bien parce que du coup, tu t'es sentie soutenue et ça t'a permis d'avancer, de ne pas baisser les bras, même quand c'était un peu dur en fait.
Oui, ah oui, je pense que ça m'a aidée. Oui, parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a vraiment un moment, surtout au Maroc. Là. En plus, à ce moment-là, au Maroc, du coup, c'était le Ramadan. Et c'est une époque, du coup, où la ville, elle est encore plus morte la journée, où il se passe vraiment
tout est au ralenti.
Donc, c'était vraiment un moment où j'étais prête à baisser les bras. Et ouais, je pense que le fait que j'appelais à ce moment-là très, 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 très souvent mes parents. Et donc, je sais pas si en tant qu'expatriée, ça t'est déjà arrivé, ces moments-là. Mais quand ça va mal... t'as vraiment envie de le dire à personne. Donc, j'en parlais très peu aux gens avec qui j'étais au Maroc ou avec mes amis en France. Mais par contre, mes parents, alors là, ils ont subi tous mes coups de cafard.
Tes coups de mou.
Ouais.
Non, j'en parle pas trop à mes parents. Je sais pas s'ils m'écouteront à ce moment-là. Mais effectivement, je n'osais pas leur en parler. Je n'ose pas leur en parler quand il y a des petits coups de mou parce que je veux pas les inquiéter. Et effectivement, c'est des choses qu'on cache facilement quand ça va mal. Et donc, tu es rentrée de cette année au Maroc en octobre 2017.
Oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, alors j'avais, avec mon ancienne directrice d'école, je lui avais dit que pour la dépanner, je pouvais faire la rentrée 2017, mais que je partirais au moment des vacances de la Toussaint. Et puis, ça arrangeait tout le monde. Et donc, j'ai passé l'été en Bretagne, donc avec mon copain, parce qu'on s'est mis ensemble cet été-là.
Tu l'as rencontré au Maroc, ton copain ?
Non, c'est un petit peu compliqué comme histoire, mais en fait, on se connaissait avant. Et, mais bon, il s'était rien passé ou quoi que ce soit. Et en fait, quand j'étais au Maroc, sur la fin de mon année au Maroc, on a commencé à reprendre des nouvelles via Internet, parce que lui, il était un petit peu aussi tout seul au Canada, expatrié, et moi, j'étais un petit peu toute seule au Maroc, expatriée. Et donc, en fait, on a créé ce lien à s'appeler, à se demander des nouvelles, etc. Et ça nous a drôlement rapprochés. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes projets. Donc, l'été d'après, il est revenu en France et moi aussi, parce qu'on s'est dit qu'on avait envie d'essayer de commencer une histoire ensemble. Et puis ça a drôlement bien marché, donc voilà, ça m'a aussi beaucoup ressourcée. Et donc je suis repartie au Maroc en début septembre, vraiment bien. Et mes deux derniers mois au Maroc se sont très bien passés.
Quand tu es partie juste avec tes valises, t'as pas fait de déménagement ou...
Ah oui, ouais. Non, j'avais rien, j'avais une valise, c'est tout.
Du coup, quand t'es rentrée, plus simple aussi, pas besoin de tout rapatrier, pas besoin de...
C'est sûr.
De prévoir un déménagement.
C'est sûr. C'est aussi sûrement cette facilité de partir seule et sans enfant. C'est justement le fait qu'on a besoin de pas grand-chose. Parce que je vois justement mes voisins et amis belges donc, qui étaient partis avec leur petite fille. Bon, ils n'avaient pas non plus fait un déménagement énorme, mais quand même, ils étaient arrivés de Belgique avec la voiture. Et donc, leur voiture était quand même... Pleine avec des jouets pour les enfants ou des petites choses dont ils avaient besoin pour que ça se passe le plus sereinement possible.
Bien sûr, ouais. Oui, c'est pas du tout la même chose.
Oui, c'est vrai que moi, j'avais juste une valise.
Du coup, tu reviens en France octobre 2017 et là, tu te prépares pour repartir. Quelles sont les démarches que tu as entreprises pour rejoindre ton conjoint au Canada et comment tout ça s'est mis en place ?
Avant toute chose, donc j'avais eu la chance en 2017 d'être tirée au sort pour recevoir un permis vacances-travail pour le Canada. Donc ça simplifie drôlement les choses. Donc une fois que j'avais eu ce visa-là, enfin ce permis de travail, pardon, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait que j'ai une certaine somme d'argent sur mon compte en banque. Je crois que c'était 2000 euros. Il fallait que
pour prouver que tu puisses vivre de toi-même au début ?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Il fallait ça, il fallait faire une visite médicale. C'était pas énorme en termes de préparation. Puis c'est pareil, je suis partie avec deux valises, sans meubles ou quoi que ce soit, juste avec mes vêtements et deux, trois petits trucs de chez moi que j'aime bien. Et puis c'est tout. Donc je suis arrivée sur place le 30 novembre 2017.
Le PVT, tu en as fait la demande quand pour l'obtenir ?
En novembre ou décembre 2016, un an avant.
Ah oui, donc ça prend presque un an avant de l'obtenir.
Mais en fait, ça dépend des gens parce que... Alors, je pourrais pas dire pour cette année parce que je m'y intéresse un peu moins, mais chaque année, quand moi j'ai fait la demande, ils ouvraient à peu près entre 6 000 et 7 000 places. Et donc, il y a entre 20 000 et 30 000 Français qui s'inscrivent pour recevoir un permis vacances-travail. Et j'ai eu la chance d'être tirée au sort et j'ai été tirée au sort au mois de mai 2017.
D'accord. 6 000 à 7 000 places par région du Canada ou pour l'ensemble du Canada ?
Pour l'ensemble du Canada.
Et les 6 000 à 7 000 places, c'est destiné à des Européens, à des Français ou c'est pour tous ceux qui en font la demande ?
C'est pour des Français. C'est les places pour les Français. Et après, il y a plusieurs jeux. L'Angleterre, les Anglais peuvent y aller. Ils ont leur propre nombre.
Nombre de places.
Propre quota, la Belgique. Enfin, c'est des accords qui se font avec le pays.
D'accord. OK. Donc du coup, tu as été tirée au sort, contente quand tu as reçu ta réponse ?
Ah oui, très contente. Oui, c'était vraiment une très très bonne nouvelle. Ça me permettait de partir parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas ça... Bon, finalement, maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'il y avait d'autres possibilités pour aller au Canada en termes de permis de travail. Mais à l'époque, je n'étais pas assez renseignée et j'avais l'impression que si je n'avais pas ça, mon choix d'expatriation était fichu, quoi.
Le fait d'avoir obtenu ton PVT en juin 2017, c'est ça ? Tu as eu la réponse mai-juin ?
Oui.
C'est ce qui a conditionné quelque part le fait de te lancer dans la relation avec ton conjoint ou pas du tout ?
On s'est jamais dit ça explicitement, mais sûrement. Parce que lui, il l'était déjà et à ce moment-là, on était déjà en communication. Et je me rappelle que c'était au mois de mai justement et je disais bon... On est au mois de mai, la plupart des places ont été données. Je crois pas que ça va le faire. Et on se disait, ah oui, on verra. On se verra cet été et puis on verra comment ça se passe. Mais oui, je pense que ça a conditionné.
Ça a joué, oui.
Ouais, je pense. Je lui demanderai.
Ah ben, tiens, oui, tu nous diras. Du coup, tu pars en novembre 2017 pour Vancouver. Tu parles au moment où c'est, j'imagine, la saison la plus difficile.
Alors, à Vancouver, en Colombie-Britannique, il y a pas... pas en Colombie-Britannique, mais dans la région du Grand Vancouver, il n'y a pas d'hiver difficile comme il peut y avoir ailleurs en Amérique du Nord ou au Canada, parce qu'on est au bord, on est au bord de la mer et il y a un climat vraiment océanique. Et donc, on a des hivers bretons. Il y a beaucoup de pluie, c'est très gris, mais il ne fait pas froid.
Tu n'es pas dépaysée.
Non, il neige un petit peu. Pour l'instant, on a eu de la neige à chaque hiver, mais c'est plaisant. C'est de la neige plaisante, mais c'est pas les grands froids, pas du tout.
T'aurais pu vivre. Tu penses que t'aurais supporté de vivre au Canada ou à Québec, au Québec, ça avait été.
Oui, je pense.
Le froid te faisait pas peur?
Non, pas du tout. Oui, j'aurais pu, mais bon, après, je suis contente de pas. C'est vrai que quand je vois les amis qui peuvent être à Montréal ou à New York, etc. Où les hivers durs d'octobre à avril, c'est sûr que je suis contente de ne pas avoir à vivre dans cet hiver-là maintenant.
Oui, j'imagine. Du coup, quand tu arrives à Vancouver, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'avec un PVT, tu dois trouver un travail tout de suite ou tu as un petit temps où tu peux...
En fait, avec un PVT, donc, l'idée, c'est que tu peux soit travailler, soit faire des vacances. Tu es libre de faire ce que tu veux sur le territoire pendant 2 ans. Donc, en soi, t'as pas forcément besoin de trouver un travail tout de suite. Mais c'était surtout en termes financiers. Parce que, du coup, je suis arrivée avec une certaine somme d'argent. Peut-être 3 000 ou 4 000 euros. Ce qui était pas mal. Mais en vrai, quand tu cherches un appartement et t'installer au début, peut-être, j'ai acheté une voiture au début. Enfin, l'argent, ça part vite.
Très vite. Ouais.
Et, je suis pas non plus arrivée avec 20 000 euros. Donc, il fallait quand même que je trouve un travail assez vite. Et puis après, pour moi aussi, pour me sentir bien mentalement aussi, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas rien faire.
D'accord.
Et donc, j'ai besoin d'être en activité. Et si je ne le suis pas, je peux rapidement me sentir pas bien. Et donc, c'était aussi pour ça. Et donc, mais par contre, c'est vrai que c'était... Alors là, c'était un peu plus l'inconnu que quand je suis arrivée au Maroc. Parce que quand je suis arrivée à Vancouver, j'avais aucun indice, aucun réseau d'emploi. Et je voulais travailler à l'école française de Vancouver, c'était mon but. Mais j'avais déjà envoyé 2 ou 3 candidatures et j'avais jamais reçu de réponse.
Tu penses que le fait de ne pas avoir le concours, ça a pu jouer?
Alors, soit ça, soit le fait que j'avais pas énormément d'expérience.
D'expérience?
Je sais pas. Ou il y avait pas de poste, je sais pas.
Ouais. Et alors maintenant, tu travailles où?
Je travaille pas à l'école française, mais ils m'ont offert un poste il y a 2 ans. Et maintenant, je travaille dans une école canadienne.
Et t'enseignes le français?
Oui, le français langue étrangère. Donc, j'enseigne dans une école anglophone et j'enseigne le français deuxième langue.
Ok. Et quand toi, tu es arrivée à Vancouver, c'est une région qui est anglophone du Canada?
Oui. Et mon anglais était correct, mais pas terrible. Enfin, correct. Ouais, correct.
Correct.
Ouais.
Donc, du coup, t'arrivais à te faire comprendre et à comprendre les autres, à communiquer, il n'y a pas eu de soucis.
Oui, mais alors... Pareil, je me suis rendu compte de mes lacunes au moment des premiers entretiens d'embauche, des papiers, parce que, alors, la difficulté quand on veut enseigner au Canada, c'est qu'il faut faire des équivalences de diplômes et obtenir un permis d'enseigner qui est valide uniquement dans la province où on l'a demandé. Donc, si on t'autorise à enseigner au Québec, par exemple, tu n'auras pas pour autant l'autorisation d'enseigner en Colombie-Britannique ou au Yukon, ou au Manitoba, et il faut refaire la demande à chaque fois. C'est beaucoup de papiers, et c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué quand on n'a pas le concours en France. Ça donne vraiment envie d'abandonner et de ne pas se lancer dans ce projet, parce que c'est vraiment beaucoup d'administratif. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais postulé pour faire ce podcast. C'était justement pour partager mon histoire par rapport à ça, par rapport au fait que je n'ai pas le concours... de professeur des écoles. Bon, alors, j'ai le master et j'ai un petit peu d'expérience et une licence de lettres, ce qui m'a aussi drôlement aidée. C'est vraiment pour dire que c'est compliqué, mais c'est possible. Et il ne faut pas se laisser effrayer par les papiers, parce qu'une fois que c'est fait, il y a toujours des possibilités après de reprendre des cours ou faire des études pour compléter ce permis d'enseigner, pour avoir plus de possibilités d'enseignement dans la province. Oui. Et voilà, pour vraiment dire que c'est possible. Ça a l'air très compliqué, mais c'est possible.
C'est surtout chronophage, ces demandes à faire, où il y a quand même des examens à repasser, des... Tu parles d'équivalence.
Oui, alors c'est surtout faire des demandes. Par exemple, il faut demander à chaque université où on a été d'envoyer au ministère de l'Éducation nos relevés de notes, d'envoyer nos diplômes. Il faut plein de lettres de référence, ce qui n'est pas toujours facile quand on sort d'un background français, parce qu'en France, on n'a pas forcément l'habitude de faire autant de lettres de référence qu'en Amérique du Nord.
C'est vrai, et j'ai eu le souci.
Ouais. Et donc, c'est difficile de demander aux gens. J'ai eu l'impression d'harceler les gens et c'était très désagréable par moment, mais au bout d'un moment, ils ne répondaient pas parce que pour eux, ça paraît...
Ça n'avait pas de sens.
Ouais, c'est pas une grosse affaire et tout ça, mais ici c'est tellement important les lettres de référence que si t'en as pas une, tu peux pas avoir l'autorisation d'enseigner.
Quand j'ai fait ma demande d'équivalence, j'imagine à peu près pareil qu'au Canada, et que j'ai dû contacter l'université pour demander voilà mes relevés notes, alors que je les avais déjà en format papier, mais ils les voulaient aux États-Unis, à New York, ils les voulaient en format numérique, et puis je pense l'officiel en fait, pas moi, pas ma photocopie. La fac me disait, mais vous les avez déjà, on peut pas vous envoyer des nouveaux documents. Mais j'avais beau leur expliquer que c'était les originaux qu'ils voulaient, numériques et pas les miens en papier, ça a pris du temps avant qu'ils comprennent, et qu'au final, ils me fassent une lettre certifiant que mes documents étaient bien des originaux, etc., etc., parce que sinon, c'était hyper compliqué.
Ah oui, et puis il faut aussi, j'en parlais avec une amie là qui a fait les mêmes démarches récemment, et il faut aussi tomber sur la bonne personne dans l'université française qui est disposée à t'aider et à comprendre un peu plus, parce que c'est vrai que des fois, ça fait pas forcément de sens pour les gens, et donc ils sont là, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle me saoule avec ces histoires de papier
C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Et ça a dû être assez compliqué, alors je vois très bien le problème.
Mais voilà, ça a été possible. Et donc, en fait, quand je suis arrivée, et comme ce papier a pris longtemps à arriver, au début, je ne pouvais pas enseigner, parce que je n'avais pas le droit. Alors, je suis devenue, de janvier à juin, j'ai trouvé un emploi dans une école pour être assistante dans une classe. Donc ça a été un petit peu difficile au début parce que j'avais quand même l'expérience d'être enseignante. Revenir à assistante, ça voulait dire que je faisais beaucoup de photocopies, j'aidais aussi les élèves en petits groupes et tout ça, mais c'était un peu frustrant par moment.
Tu n'avais pas accès aux décisions pédagogiques,
non.
Exécutais ce qu'on te disait de faire.
Absolument. Et donc au début, ça pouvait être très frustrant et j'aimais pas trop ça. Mais finalement, ça m'a beaucoup appris parce que le système d'éducation canadien est quand même... Et j'étais pas dans une école française. Et donc, le système canadien d'éducation est différent du système français. Et finalement, je pense que j'aurais pas pu me lancer en tant qu'enseignante sans avoir cette expérience d'assistante parce que ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionnait et d'améliorer mon anglais. Ah oui, vraiment, j'en avais besoin.
D'accord. Tu te rends compte avec le recul que finalement c'était bien plus compliqué que ça de parler avec des non-francophones ?
Oui, tout à fait. En fait, j'avais une expérience d'anglais de l'école et après du voyage. Donc quand on voyage, arrive à communiquer, se faire des amis un petit peu éphémères et tout ça, ça avec l'anglais que j'avais, c'était facile. Mais finalement, passer un entretien d'embauche, enseigner, être dans des réunions pédagogiques, ce genre de choses au début, mais c'était terrible parce que j'avais pas le vocabulaire, j'avais pas. Et c'était vraiment difficile.
Ouais, j'imagine. Déjà que en français, c'est compliqué
lors
des réunions pédagogiques d'avoir tous les termes, de connaître tous les partenaires. Alors là, ça devait être vraiment difficile.
Oui. Et donc, je pense que j'avais vraiment besoin de ça. Et après, donc, les choses se sont bien faites parce qu'il y a un poste de professeur de français dans mon école où j'étais assistante qui s'est ouvert. Et donc, j'ai postulé. J'avais toujours pas reçu mon permis d'enseigner, mais j'avais déjà un pied dans cette école. Donc, j'ai eu le poste. Et la condition, c'était d'avoir mon permis d'enseigner avant le mois d'août. Ce qui n'était pas ma décision, donc ce qui était d'autant plus stressant.
Pourquoi il te le fallait avant le mois d'août ?
Pour pouvoir commencer à enseigner avec, tout simplement.
Ah oui, pour la nouvelle rentrée ?
Oui. Mais bon, finalement, ça s'est bien fait parce que je l'ai reçu au mois de juin.
Ah oui, parfait.
J'ai pu commencer sans souci. Et entre-temps, donc c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, mon objectif vraiment suprême, c'était de travailler à l'école française de Vancouver. Et j'ai réussi à avoir un entretien d'embauche qui s'est très bien passé. Et ils m'ont offert un emploi. Et j'ai finalement choisi de travailler dans mon école canadienne.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a fait que finalement t'as préféré rester dans une école canadienne plutôt qu'intégrer l'école française ?
Honnêtement, Le salaire.
D'accord.
Oui, le salaire était beaucoup plus conséquent dans une école canadienne que française.
Ok. Mais c'est bon à savoir.
C'est aussi un petit tips.
Supplémentaire, ouais.
Mais bon, après, voilà, je dénigre pas du tout l'école française de Vancouver. Ils ont vachement... Enfin, ils ont plein de super projets, c'est bien. Mais voilà, à ce moment-là de ma vie...
Ouais, ben c'est important aussi de pouvoir vivre correctement quand on est expatrié, de pouvoir mettre de l'argent de côté si on a besoin de rentrer, de revenir, de quoi que ce soit, en fait.
Tout à fait. Et puis surtout que, honnêtement, Vancouver, c'est une ville chère. Les loyers, c'est pas donné. Les assurances voitures sont très chères. Voyager, c'est cher aussi. Donc, c'est vrai que quand on part, donc si jamais il y a des gens qui nous écoutent ici, qui s'intéressent à immigrer en Colombie-Britannique, et notamment pour enseigner, je pense qu'il faut être au courant et faire attention du salaire qu'on nous propose, parce que c'est Vancouver, c'est une ville chère.
De faire attention de pas prendre un salaire qui ne serait pas assez élevé et qui serait difficile après de vivre avec et de pouvoir se loger, etc.
Voilà, tout à fait. Parce que justement, quand j'étais assistante, par exemple, mon salaire était correct, mais pas génial. Il n'aurait pas fallu moins pour vivre. Pourtant, quand ils m'ont proposé ce salaire, n'ayant pas trop conscience à l'époque du coût de la vie, je me suis dit « Oh, c'est un salaire correct, c'est chouette et tout ça ». Mais finalement, avec le coût de la vie, bah, c'était pas si terrible que ça, quoi.
En fait, quand on part en Amérique du Nord, au Canada, j'imagine que c'est à peu près pareil, avec notre salaire de professeur français, on sait avec quoi on part et on nous propose un salaire qui est bien plus important que le salaire français. Mais oui. Après, avec le coût de la vie, on se rend compte que c'est même pas forcément suffisant
pour
vivre. En tout cas, ça a été le cas pour moi à New York. On m'a proposé un salaire et quand j'ai eu ce chiffre sous les yeux, je me suis dit « Waouh, wow, c'est énorme
oui. !»
Finalement, ça suffisait même pas à couvrir notre loyer ici. Donc,
oui.
Heureusement qu'on n'a pas besoin actuellement de ce salaire-là pour vivre.
Parce que toi, tu enseignes à New York aussi, là ?
Alors, actuellement, je n'ai pas de poste fixe, je ne fais que des remplacements.
D'accord.
Mais j'ai eu une proposition d'emploi, oui, dans une école, dans une kindergarten plutôt.
Ouais.
Donc, pour être professeur de français, mais avec des enfants en dessous de 5 ans.
Oh, trop bien.
Et puis, ben... Le fameux virus est arrivé.
Voilà, et donc ça a tout mis en pause.
C'est ça, exactement. Donc j'imagine que pour toi aussi.
Ouais.
J'aimerais juste revenir sur, tu nous parlais de ton conjoint tout à l'heure, il est donc professeur de ski,
oui.
C'est ça ?
Oui.
Comment vous faites ? Parce que tu disais, l'hiver à Vancouver n'est pas très froid, c'est un climat océanique.
Oh.
Donc comment il fait pour vivre de ce travail en fait ?
Alors c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi Vancouver et pourquoi après... presque 3 ans, j'aime toujours autant cette ville, c'est qu'on a vraiment tous les avantages. On a les avantages de la grande ville, on vit pas dans le downtown, mais on a les avantages de la grande ville tout en vivant un petit peu dans un endroit calme. De mon appartement, je suis à 5 minutes à pied de la mer et à 10 minutes en voiture de la montagne.
Waouh.
Autour de la ville de Vancouver, il y a 3 stations de ski qui sont accessibles à moins de 30 minutes en voiture.
Oh, c'est génial.
Et donc, parce que donc dans la ville en soi-même, il fait pas froid, mais il y a de la neige. Enfin, c'est pas comme en France, tu vois. Il y a de la neige à 800 mètres d'altitude, même peut-être moins. À 1500, 2000 mètres, c'est des glaciers, quoi. Il fait tout de suite très froid. Et donc, ouais. Même si on n'a pas de neige dans la ville, on a les 3 stations de ski qui sont d'ailleurs encore un petit peu enneigées, là.
Donc, je retire ce que je dis tout à l'heure. T'es peut-être un petit peu dépaysée par rapport à la Bretagne.
Non, ça. Alors, le climat ressemble à la Bretagne, mais pas du tout les paysages, non.
Ça doit être magnifique.
Ah, c'est vrai, ouais, c'est vraiment très beau. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est bien, parce que lui, on peut vivre quand même. On n'est pas dans le milieu des Rocheuses canadiennes où moi, j'aurais beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Pour moi, c'est facile de travailler à Vancouver. Et on a aussi les 3 stations de ski où mon conjoint peut s'épanouir et professionnellement. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi. Autour, il y a beaucoup, beaucoup de stations de ski. Donc, il y a Whistler à une heure et demie de Vancouver, qui est très, très réputée. Sur l'île de Vancouver, il y a aussi une station de ski. Donc, c'est 1h30 de bateau et après une petite heure en voiture.
Sur une île ?
Ouais, le Vancouver Island.
C'est fou !
C'est une île qui est grande comme le Japon, à peu près. Et c'est super beau.
Mais c'est fou de se dire que tu as une station de ski sur une île. C'est génial !
On y a skié une fois et c'est très beau.
Et du coup, il peut enseigner le ski qu'en hiver, j'imagine, il fait quoi le reste du temps ?
Alors, le reste du temps, il travaille comme ouvrier paysagiste.
D'accord. Il peut vivre de sa passion, parce que j'imagine que c'est une passion d'être professeur de ski quand même. Et le reste du temps, avoir quand même un métier qui lui plaît, parce qu'il doit être très nature, ton conjoint, j'imagine.
Oui, tout à fait. Il est
et
très
toi aussi ?
Oui, on aime beaucoup, là. C'est aussi pour ça qu'on aime vraiment ici. C'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités en termes de nature, de plein air, tout ce qui est randonnée. Bon, moi, j'aime skier. Après, je suis pas comme autant que lui. Hein. Je suis beaucoup moins bonne skieuse que lui. Et voilà. Mais bon, j'aime quand même ça. Et on skie tout l'hiver et on va skier dans différentes stations. Alors, le virus a changé cet hiver. On a beaucoup moins skié que d'habitude. Mais donc il y a ça, il y a le ski, il y a la mer pour faire du canot, du kayak, les randonnées, le camping, on adore faire du camping, non,
c'est génial.
Super pour ça, la Colombie-Britannique.
C'est top, vraiment c'est top. Tu nous disais aussi que vous avez donc demandé votre résidence permanente.
Et oui, ça y est, ça fait depuis là, février qu'on est résident permanent du Canada.
Ça implique quoi?
C'est aussi beaucoup de papiers.
Ah.
Alors avant, quand on était en permis de travail, donc ça a une date d'expiration, on a moins de facilité à faire plein de choses en fait. Donc il y a plein d'exemples, mais par exemple, là on pense pas spécialement à acheter quelque chose, mais si tu veux acheter un bien immobilier sans résidence permanente, c'est pas possible. Voyager dans le pays, c'est beaucoup plus facile. Voyager à l'étranger, revenir ici. En fait, maintenant on peut tout faire comme des Canadiens, sauf voter. Mais bon, alors après, c'est pareil, ça nous a demandé pas mal de papiers pour nos emplois, il fallait encore redemander des papiers aux universités françaises pour prouver nos diplômes, prouver notre relation, le fait qu'on soit bien, donc ce qu'ils appellent conjoint de fait.
C'est-à-dire?
Je sais pas tellement comment expliquer, mais c'est un statut qui existe au Canada qui fait que si tu peux justifier de plus d'un an de vie commune, t'es considéré comme, t'as les mêmes droits et devoirs qu'un couple marié, en fait. Et donc, il faut justifier ça, des bails en commun, des comptes communs, des choses comme ça. Et puis, c'est un coût financier aussi. Alors, j'ai vu que là, les coûts avaient changé et qu'ils ont augmenté énormément. Donc, je n'ai plus les chiffres en tête. Ouais, ça coûte entre 1000 et 2000 dollars.
Par personne ?
Par personne.
D'accord. Et ça, vous pouvez le faire à partir de quand ?
Alors, ça dépend. Il y a plusieurs manières de demander la résidence permanente. Et j'avoue que je ne suis pas hyper calée dans tout ce qui est expatriation. Mais du coup, dans notre cas, on a demandé parce que j'avais un an d'expérience de travail qualifié au Canada.
D'accord.
Donc, l'enseignement. Et ce qui nous permettait de rester parce qu'ils sont en recherche d'enseignants.
Ah oui, d'accord, ouais. Dans la province de Colombie-Britannique.
Voilà, ça nous permettait de rester et donc mon conjoint Florent pouvait rester avec moi parce qu'il était mon conjoint et il ne considère pas ici qu'ouvrier paysagiste, c'est un travail qu'ils appellent qualifié, mais du coup il pouvait rester. Il a aussi eu sa RP grâce à mon emploi.
Parce que vous avez pu du coup justifier que vous étiez conjoint de fait.
Tout à fait.
D'accord. Et donc, du coup, maintenant que vous avez cette résidence permanente, elle a une date de validité ou...
Il y a quand même une date de validité, mais elle est de 5 ans. Donc,
d'accord.
On est tranquille pour 5 ans. Et à partir de 5 ans, tu as la possibilité de la renouveler. Tu as aussi la possibilité de demander la citoyenneté. Et bon, alors là, je suis beaucoup moins calée sur les démarches parce qu'on ne s'est pas encore renseigné là-dessus.
Vous avez encore le temps de voir venir.
Voilà, c'est ça. On a 5 ans tranquille.
Bon, c'est top. Mm. C'est vraiment positif.
Oui, oui, ça... Là, si maintenant je devais faire le bilan de mon expérience d'expatriée, je dirais que ouais, là, il y a eu des hauts, des bas dans tout ce parcours. Il y a eu beaucoup d'administratifs. Il n'y a pas eu tant de questions à se poser que ça. Tout s'est fait souvent, naturellement. Moi, je suis très coup de tête, alors sur des coups de tête. Mais aujourd'hui, ça va bien.
Tu ne regrettes absolument pas d'être partie la première fois et puis ensuite au Canada?
Ouais, ah non, non, vraiment pas. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si on restera expatrié toute notre vie. Peut-être qu'un jour, on rentrera. Bah, je ne sais pas. Le truc qui est encore un petit peu fatigant, c'est que si on rentre en France, quand on rentrera en France, il va falloir tout recommencer, toutes ces démarches, parce que c'est encore, même si c'est notre pays d'origine, c'est encore s'expatrier, encore une fois, finalement, parce que...
Ouais, une impatriation, c'est pas rien, ouais.
Ouais, on aurait... toutes les démarches d'emploi, de sécu, tout ça à refaire, parce qu'en France, on n'a plus rien. Bon, on a nos amis, parents, bien sûr, hein, on n'a pas plus rien, mais on n'a plus rien en termes de papier, d'impôts. Et il faudrait tout refaire là-bas. Et j'avoue que là, j'ai l'impression d'être totalement dans une zone de confort. Et pour l'instant, ça me fait un peu peur de tout rechanger encore. Mais bon.
Et puis, à contrario de l'Amérique du Nord et du Canada, enfin, de États-Unis et Canada, quand tu reviens... Je parle là par rapport à notre métier à toutes les deux, en tant que professeur des écoles. Quand tu reviens en France pour le coup, vu que tu n'as pas le concours, retrouver le poste que tu as actuellement au Canada en France, ça risque d'être très compliqué, en fait. C'est ça qui est, en fait, dommage en France, c'est qu'aux États-Unis, là, j'englobe pareil, Amérique du Nord, hein, tu peux être embauché sans avoir vraiment d'expérience par ta volonté et par le fait que tu vas prouver que tu es capable de faire ce travail-là et ce métier-là, et on va te laisser ta chance, ce oui. qui ne sera pas forcément le cas en France.
C'est ça, le système actuel de l'éducation nationale ne me convient pas. Bon, si jamais on rentre en France, j'ai le temps de réfléchir, mais non, franchement, je ne me vois pas repasser le concours de professeur des écoles.
C'est ça, mais ouais.
Parce que déjà, j'ai pas envie.
C'est bien dommage.
À la fac.
Ouais.
Mais, et puis, alors après, on verra, là, j'ai postulé cette année pour un autre master. On va faire un master de FLE, français langue étrangère.
D'accord.
À distance. Mm-hmm. Pour justement développer ces compétences-là. Parce que là, je commence à avoir de la bonne expérience en termes de FLE, mais du coup, j'ai pas un diplôme de FLE. Dans le système français, on sait que les diplômes, c'est important. Et donc, si jamais on rentre en France ou si on veut changer de pays à un moment donné, je pense que ça me sera très utile d'avoir ce master.
Ouais, tu as raison. Ouais.
Là, j'ai postulé, j'ai pas encore de réponse.
Un bagage supplémentaire, mais c'est très bien. C'est bien de penser à ça avant. Super.
Justement, je trouve que là, c'est un bon moment pour faire ça parce que voilà, justement, j'ai un travail avec un salaire, donc je peux me permettre de payer ce master. On n'a pas d'enfant ou quoi que ce soit, donc quand je rentre le soir, j'ai juste à m'occuper de moi et justement travailler mes cours. C'est vraiment le parfait moment, je pense, pour
le bon timing. Ouais, tu as raison. Si jamais nos auditeurs veulent communiquer avec toi, en apprendre plus sur toi, est-ce que tu as un compte Instagram, un compte Facebook où ils peuvent te retrouver ?
Ouais, mon compte Instagram, c'est Lily Lexplo, donc L-I-L-Y, et Lexplo, L-E-X-P-L-O. Ce nom-là, c'est parce que je fais partie aussi d'une communauté de voyageuses et c'est un blog qui s'appelle Les Exploratrices.
Oui, je connais, c'est super.
Ouais, donc je suis une des exploratrices. J'ai écrit plein d'articles pour la blog.
Super, donc du coup, nos auditeurs pourront aller lire tes articles.
En plus,
tu les signes sous le nom de Lily ?
Oui, tout à fait. Et ouais, ouais. Et donc d'ailleurs, j'en ai écrit un sur Vivre dans les provinces du Sud, sur mon expatriation. J'ai écrit un article sur bilan de 2 ans et demi d'expatriation l'année dernière. J'en ai écrit
top.
Vancouver, j'en ai écrit pas mal sur le Maroc.
Ah, c'est top, super.
Et puis bon, après, toutes mes copines du blog, elles écrivent aussi tout plein d'articles. On est plusieurs à être expatriées, donc il y a vraiment plein d'articles intéressants sur l'expatriation, si ça vous intéresse.
Ouais, super, on va aller voir ça. Est-ce que tu as des endroits que tu recommanderais dans ta province, dans ta ville de cœur, on peut le dire, à nos auditeurs ?
Vancouver ?
Oui, ou en tout cas en Colombie-Britannique, ou même au Maroc, si tu as des super souvenirs.
Ouais. Alors, au Maroc, j'ai trop de super souvenirs. C'est vraiment un pays magnifique. Alors, j'aurais juste à dire, allez au Maroc, c'est vraiment trop beau. Mais Vancouver, vraiment, la Colombie-Britannique, je pense que c'est encore une région pas assez connue des Français, parce que très loin. Donc,
d'accord.
C'est une région quand même touristique, mais je trouve qu'il n'y a pas encore beaucoup... Il y a quand même une belle petite communauté d'expatriés, mais je ne trouve pas qu'il y ait tant de ça... de tourisme français. Et du coup, j'ai vraiment envie de dire, ça vaut vraiment la peine de venir visiter cette région parce que donc voilà, il y a l'île de Vancouver à 1h30 de bateau qui est absolument magnifique. Toute la région de Vancouver, c'est trop beau. Le fait d'être entre l'océan Pacifique et la montagne, c'est un cadre et les forêts, les grands lacs canadiens, ça donne un cadre qui est absolument incroyable. J'adore les rocheuses canadiennes. Bon, alors, c'est pas en Colombie-Britannique, c'est en Alberta, mais... Les Rocheuses, c'est un des plus beaux endroits où je suis allée dans ma vie. Et je vous conseille fortement l'ouest du Canada en général, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tourisme au Canada, au Québec, parce que c'est francophone et parce que c'est plus proche de la France, évidemment. Donc, les tarifs sont sûrement plus attractifs. Mais ne surtout pas dénigrer l'ouest canadien, parce que c'est magnifique.
Ok, super. Merci beaucoup.
Non, de rien.
En tout cas, c'était une très belle interview. Je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci à vous d'avoir pris le temps de me parler.
On vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur dans cette superbe vie à Vancouver, en Colombie-Britannique, et puis peut-être une citoyenneté canadienne d'ici quelques temps.
Qui sait, peut-être un jour.
On croise les doigts.
Merci.
Merci beaucoup, Lily. À bientôt.
À bientôt.
Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Un immense merci à Lily et Charlotte pour ce voyage entre le Maroc et le Canada. Moi, perso, j'ai adoré la balade. Et ouais, vous me reconnaissez, c'est moi, Anne Fleur, qui vous fait la conclusion aujourd'hui. J'en profite pour dire un immense merci à Charlotte, qui a produit et réalisé pas mal d'interviews depuis le début de French Expat, le podcast, et qui a décidé de se recentrer sur ce qu'elle aimait faire par-dessus tout, c'est-à-dire s'occuper de nos invités chéris et de gérer les relations avec ces derniers. Alors Charlotte, un immense merci pour ce que t'as fait, j'ai adoré écouter tes épisodes. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode et de French Expat le podcast en général, rendez-vous sur les réseaux sociaux, on est un peu partout, et notamment sur Instagram où on est relativement active. Retrouvez la vignette de l'épisode, venez nous raconter ce que vous avez aimé et on se fera un plaisir de vous répondre. Et puis bon, si vous écoutez toujours là, tout de suite, maintenant, s'il y a grande chance que vous ayez à cœur que ce podcast réussisse, grandisse et se fasse connaître, et bien si c'est le cas, rendez-vous sur votre appli de podcast préféré, abonnez-vous. Même si vous n'êtes pas sur Apple, vous pouvez vous abonner et ça nous aide aussi. Et puis si vous êtes sur Apple Podcast, depuis votre Mac ou votre iPhone par exemple, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit mot en nous parlant d'à peu près ce que vous voulez et pourquoi pas de votre épisode préféré. Encore un immense merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve lundi prochain. Bye bye. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!